Bienvenue à Scal 17-18, à la Fulgence Blanc au micro et Maurice Bolduc à la technique. Oui, voilà, aujourd'hui encore, là, pour la deuxième semaine consécutive, on va parler des comic books, c'est-à-dire les bandes dessinées américaines, bien sûr, il faut le préciser en français. Christian Lacasse est avec moi en studio. Voilà, et puis en deuxième partie d'émission, qui est-ce que je vais recevoir? Je vais recevoir Marilyn Laroche, qui est la directrice du développement des communications et du marketing à la maison Adhémar Dion, qui va nous parler de ce spectacle bénéfice qui célèbre la vie. J'ai souvenir encore. Voilà, c'est les détails pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est un peu plus tard en deuxième partie d'émission à partir de 17h30. Directrice du développement des communications et du marketing de la maison. Ouais, c'est, je l'ai bien dit. Adhémar Dion, c'est le papa de Céline Dion, bien sûr, voilà. Et c'est sa sœur qui est porte-parole de cette maison, d'ailleurs. Ouais, voilà. Merci. On va revenir sur ça en deuxième partie d'émission. Alors, bonjour Christian Lacasse.
Monsieur Fulgence Blanc.
Pour une deuxième fois, on va parler des comic books.
Oui. Comic books. Absolument. J'aimerais commencer par un petit retour sur la semaine dernière, sur ma chronique concernant le début du comic book, surtout au 19e siècle. Oui. Je vous ai parlé du comic, en fait, c'est le comic strip Yellow Kid. Je voulais simplement mentionner qu'en 1897, il y a eu un recueil de ses premières aventures qui a été produit. Un recueil qui a été fait sous un format grand format, en fait, vendu à 50 sous. Et qui contenait 196
attention,
pages.
Attention, 50 sous.
50 cents. 50 sous.
Voilà, oui, c'est 50 ça. Non, cent, voilà. même pas un dollar.
Voilà.
50 sous à l'époque.
Oui, oui, bien sûr. Et 196 pages. Et à l'intérieur, ce qui est intéressant, et ce qui est d'ailleurs très important dans la suite du comic book aux États-Unis, c'est la première fois qu'on utilise le mot, le terme comic book pour signifier qu'est-ce que l'on retrouve dans le livre en soi. Okay. Donc c'est une combinaison de comic strip, donc on utilise comic, et book parce que c'est 196 pages, c'est comme un livre, donc c'est un book. C'est la première fois qu'on utilise comic book, et à partir de ce moment-là, on utilise le terme pour les publications subséquentes.
Okay.
Mais c'est pas de ça que je voulais te parler aujourd'hui, mon cher Fulgence.
Oui, tu... Oui.
C'est l'été. On va parler d'un sujet très léger. Mm-hmm. Et on va parler de quelque chose de controversé, qui a été populaire quand même pendant une certaine période de temps dans l'industrie du comic book aux États-Unis, mais c'est quelque chose de clandestin. Je veux te parler des Bibles de Tijuana, ou ce qu'on appelle en anglais de Tijuana Bibles.
Ouais, ouais. Je suis allé faire mes recherches quand tu m'as dit.
Aha! Il est allé se rincer l'œil, ce film, genre, je m'en doutais pas. C'est des publications qui sont apparues au milieu des années 1920.
Oui.
Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une bande dessinée de seulement 8 pages qui comprend un panneau dessiné par page dans un format de portefeuille. Donc, on peut tenir dans la paume d'une main. C'est environ 2 pouces et demi par 4 pouces. Et c'est imprimé sur du papier blanc bon marché. Donc, c'est pas fait d'une grande qualité, là. C'est vraiment quelque chose de bon marché. Qu'est-ce qu'on retrouve?
Et surtout que ça se vendait clandestinement.
Voilà.
Ça s'est foncé sous les manteaux, comme on
peut
dire.
Mais pourquoi c'est clandestin? C'est parce que, à l'intérieur, on retrouve principalement des escapades sexuelles et explicites qui mettent en vedette des personnages de comic strip bien connus, des stars de cinéma et même parfois des personnalités politiques qui sont utilisées sans respect de la loi sur les droits d'auteur et sans leur autorisation.
Tout
dans un langage assez grivois. Et j'en ai consulté quelques-unes. Effectivement, c'est cru, c'est assez graphique, c'est vulgaire, bref.
Avec la pudeur qui fait figure aussi sur le peuple américain.
Voilà, surtout à l'époque.
À l'époque, c'était pas évident.
Donc, moi, j'ai adoré. Le but, à l'époque, c'était bien sûr de titiller, d'explorer les tabous, de donner des sensations fortes, provoquer. C'est pourquoi ça a été grandement populaire, surtout dans les années 30, à l'époque de la Grande Dépression. Mais d'où vient le terme, les Bibles de Tijuana? En fait, ça n'a aucun rapport avec la ville de Tijuana. C'est parce qu'on voulait...
Parce que c'est une ville au Mexique.
Voilà.
Si
on a laissé présager que c'était fabriqué à Tijuana, au Mexique. C'est un terme qui a apparu à la fin des années 1940 au sud de la Californie, mais ça n'a aucun lien avec ça. C'est pour détourner l'attention des autorités. Et en même temps, c'est pour dire, mais non, c'est impossible que la société américaine pourrait produire de telles bandes dessinées. Non, c'est produit ailleurs, c'est produit dans d'autres pays. D'ailleurs, avant les années 40, on laissait sous-entendre que c'était peut-être produit en Europe ou encore à Cuba.
Il fallait brouiller les traces.
Voilà.
C'est comme ça, il fallait brouiller les traces.
Absolument.
Parce que le FBI ou le CIA était sûr aussi.
Exact.
En train de faire ses enquêtes, leur enquête, pour essayer de mettre la main sur eux, quoi. Qui est derrière ça?
Mais justement, derrière?
Oui.
Et ça, avec le temps, difficile de savoir exactement des acteurs principaux.
Mais ils sont pas nés hier. C'est qui faisait les choses comme ça. Ils savaient comment se protéger.
Absolument. Donc, il fallait qu'ils restent inconnus parce que les publications étaient illégales, clandestines.
Mm-hmm.
C'était surtout illégal de produire ou de distribuer de la pornographie. Donc, personne n'allait mettre son nom sur les publications qui sont devenues par la suite qu'on a appelées les Tijuana Bibles, les Bibles
et
de Tijuana.
Et ils ont même inventé des maisons d'édition.
Absolument.
Des noms fictifs.
Oui.
Vous trompez.
Je ne vais pas les mentionner aujourd'hui.
Non, vous pouvez pas les mentionner.
Parce que c'est d'une vulgarité incroyable.
Incroyable.
En anglais,
oui.
Mais c'est quelque chose.
Mais c'était provocateur. C'est
voilà.
Fait comme ça. C'est ce qui fait que ça se vendait sous le manteau, d'ailleurs.
Voilà. Ben, d'ailleurs, on retrouvait ces publications surtout dans des établissements où les hommes se rassemblaient. Par exemple, les bars, les salons de quilles, les garages, le barbier du coin ou les maisons closes.
Ouais.
Au début, on a tenté de distribuer les bibles. Je vais les appeler les bibles comme ça.
Oui, mais c'est ça. C'est le bible pour eux. C'est des bibles.
On a tenté de les distribuer par la poste, mais comme c'est une infraction pénale grave de distribuer des choses par la poste ce genre de choses, c'est passible de peine de prison. D'ailleurs, il y a déjà eu quelqu'un en 1932 qui a été passible de 5 ans de prison pour avoir sollicité des commandes pour distribuer des Tijuana Bibles.
Il n'a pas su ce point, il s'est fait pincer.
Il s'est fait pincer.
Par
la suite, le FBI et la police ont commencé à surveiller les endroits, donc
les bars, les garages.
Mais également les endroits où on distribue le courrier. Ça a été grandement. C'est pourquoi les gens qui fabriquaient ce genre de comic book ont décidé de les distribuer par eux-mêmes. Donc, en voiture, les envoyer dans les points de distribution un peu partout, mais ils voyageaient avec dans leur voiture. Et c'était pratique parce qu'à cause de leur petite taille, on pouvait en mettre au-dessus de 50 000 dans coffre de voiture.
Quand j'ai lu ça, je me suis dit 50 000 dans un coffre de voiture.
Exact.
50 000 copies.
En passant, les copies étaient vendues habituellement entre 25 cents et 1 $.
Oui.
Mais c'était sous la table, bien sûr.
Sous la table, il ne fallait pas d'impôts. Hein. Il
ne
fallait pas se faire voir.
Il fallait le demander. Hein. Il fallait absolument le demander.
Pardon? sous la ceinture aussi,
oui. Oui, absolument. Merci, Maurice.
Puisque c'est de ça il s'agit.
Exactement. On a peu de détails, mais les historiens pensent que le crime organisé était derrière tout ça.
Oui.
Mais en même temps, parce que c'était facile de réimprimer soi-même les choses, il y a plusieurs personnes qui ont décidé de le réimprimer des versions des Tijuana Bibles par eux-mêmes. Il suffit d'avoir une presse à portée de la main et on pouvait en réimprimer parce qu'il y avait de l'argent à faire là-dedans.
Ah oui.
On estime d'ailleurs qu'il y a entre 800 et 1000 titres qui ont été produits entre les années 20 et le tout début des années 1960. Comme je l'ai dit, ils ont été réimprimés à moult reprises.
Mm-hmm.
Qui donc était derrière ces Tijuana Bibles? Bon, on n'a pas de détails précis, mais il y a des noms d'emprunts qui ont été...
Il y a des noms d'emprunts qui sont sortis.
Effectivement, en fait, qui ont été utilisés.
Oui.
Par ailleurs, il y en a un qui s'appelle Mr. Prolific.
Oui.
Monsieur Prolifique.
Oui, j'ai vu ça m'a fait sourire.
Et son nom le dit, c'est celui qui a été le plus prolifique. Il en aurait conçu entre 150 et même jusqu'à 200. Son plus populaire s'intitule « The Adventures of a Fuller Brush Man ». Ça raconte l'histoire d'un homme qui fait du porte-à-porte pour vendre diverses choses. On n'a jamais su quoi exactement.
Qu'est-ce qu'il vendait?
Il vendait, on ne sait pas, il s'appelle Ted.
Il vendait tout et rien en même temps.
Oui, voilà. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque fois qu'il voulait vendre du porte-à-porte, qui lui répondait? Une femme en petite tenue. Tout le temps. Dans chacune de ses aventures, et je pèse les mots, c'était tout le temps une femme légèrement vêtue qui lui répondait à la porte. C'est quand même incroyable. Je sais pas si toi, Fulgence, t'as fait du porte-à-porte, mais moi, je n'ai jamais été en présence d'une femme légèrement vêtue lorsque j'ai fait du...
Non, j'ai jamais fait des porte-à-porte. C'est vrai?
Non, ouais, exact.
Non.
Tu vas réfléchir là-dessus.
Non, j'ai jamais fait de porte-à-porte.
Il y en a un autre qui a sévi, lui, plutôt après la Deuxième Guerre mondiale. C'est Mr. Dyslexic. On l'a appelé comme ça parce que c'est un artiste qu'on a jugé qui était maladroit et même semi-alphabétisé. Parmi les titres, bon, il y a des titres de Tijuana Bible qui sont anodins. Il y en a un petit peu plus
spécifiques.
C'est quand même fascinant parce que des fois, on veut brouiller les cartes, mais des fois, on veut vraiment le dire là, carrément que c'est quelque chose qui va être explicite à l'intérieur.
C'est pourquoi j'ai parlé de provocation.
Voilà.
Quelque part.
Voilà.
Parce qu'il y a des titres qu'on veut. Nous, on peut pas dire ici.
on peut
garder ça. Oui, parce que c'est de la provocation pure et simple. Même si ça fait de l'argent.
Et quand on les consulte, c'est très simple. C'est tout le temps le même modèle. Là. C'est-à-dire que ça commence avec un peu de nudité, puis après, on y va vraiment dans très explicite. Donc, c'est pour adultes. C'est vraiment pour adultes. Il y a des conséquences judiciaires avec tout ça, avec les Tijuana Bibles.
Ça, c'est clair.
Par exemple, la simple possession d'une Tijuana Bible, ben, c'est un crime qui est considéré peu grave. L'amende peut aller jusqu'à 500 $. Quand même pour l'époque, 500 $.
500 $, c'était d'une fortune, ça.
Exact. Mais ce qui est considéré encore plus grave, c'est l'impression et la distribution de matériel pornographique. Et c'est encore plus grave si on décide de distribuer à l'extérieur de l'État dans lequel il est produit. Et là-dessus, c'est là que c'est passible de prison. Si vous décidez de ne pas distribuer à l'extérieur de l'État, bon, on peut parler de 30 jours dans la communauté, parfois 30 jours de prison, mais je pense que c'est arrivé très, très, très peu souvent. Amende à 100 $, tout ça.
Il fallait tout faire pour éviter ce genre de contravention.
Exact, mais c'est arrivé à quelques reprises dans le passé. Par exemple, en 1930, la vente de 2 Bibles de Tijuana pour 25 cents chacune dans un salon de barbier de Dover Plains dans l'État de New York, ben, ça fait la une des journaux. L'affaire a été découverte lorsqu'une femme parcourant les vêtements de son neveu de 17 ans a découvert, elle voulait faire le lavage et elle a découvert 2 Bibles de Tijuana et
dans les poches de son petit neveu. Wow.
Mais le pire, c'est qu'elle a décidé d'appeler la police pour ça. Elle a appelé la police. La police s'est ensuite rendue au salon de barbier dans lequel a été distribué ces 2 bibles de Tijuana.
Oui.
Et le propriétaire aurait dit « Mais non, mais c'est quelqu'un d'anonyme qui les a déposés là pour rien. Je ne suis pas responsable. » Il a été passible d'une légère amende.
Oui, parce qu'ils n'ont pas pris la main dans le sac. Hein.
Non, exactement.
Voilà.
Mais la première arrestation concernant une Tijuana Bible, ça a eu lieu à Terre Haute, en Indiana, en 1926. On a découvert ça dans le casier d'un élève d'une école secondaire. Et on a retracé la source à un rédacteur en chef réputé du journal local de l'époque.
Ah!
Et il imprimait ça en compagnie de son fils. Et il y a eu des accusations fédérales qui ont été portées.
Il imprimait ça en compagnie de son... Ben, il n'était pas capable de se protéger plus que ça. Il savait que tôt ou tard, s'il ne faisait pas attention, que ça allait sortir.
Mais
surtout qu'il travaillait pour un grand journal.
Exact. Mais où le bas blesse, c'est qu'il a été reconnu coupable parce qu'il a décidé d'importer ça dans d'autres États. Et c'est là qu'il y a des accusations fédérales qui ont été portées contre lui.
Alors, pour la dernière minute qui nous reste...
Oui, ben tiens...
Quand est-ce que ça a pris fin, cette histoire-là? Dans les années 60, si je ne me trompe pas.
En fait, c'est ça. Dans les années 50, la popularité s'estompe quelque peu.
Oui.
Surtout avec l'avènement de magazines, par exemple Playboy. Là, on a accès à de la nudité, de la vraie. Mmh. Là, on n'a plus besoin d'avoir des dessins puis tout ça. Là.
Non, c'est autre chose.
Quand même, faut reconnaître que les Tijuana Bibles, c'est les débuts du comic book underground, donc souterrain, le début de la contre-culture. C'est un type de comic book qui a eu une vie clandestine, mais qui a répondu à des besoins pour l'époque.
Oui. Jusqu'à dans le début des années 60.
Exact.
Voilà.
Exactement. Mmh. Et je veux juste une petite mention comme ça. En 1942, on a saisi 8 millions de Bibles de Tijuana dans l'État de New York.
En 1942.
Et selon le FBI, 4 tonnes de matériel étaient prêts à être expédiés un peu partout dans le pays.
C'est comme les gens qui fabriquaient la mafia, qui fabriquaient l'alcool en clandestine.
Effectivement, c'est la même chose.
Quoi. Voilà, la même chose.
La même chose.
C'est le même procédé qui, à cette époque, parce que ce qui est interdit, il y a toujours des gens qui vont contourner
ben oui.
clandestinement.
Qui toujours
vont
des gens qui ont un intérêt pour ça. Merci. Donc, c'était ça, les bibles de Tijuana. Les seuls comic books qui pouvaient se lire d'une seule main.
Tijuana Bible. Quand j'ai vu, j'étais en train de lire les trucs, ça m'a fait sourire. Quoi. J'ai dit,
bien sûr.
Il y a toujours des gens pour contourner la loi,
ben hein, oui.
qu'on le veuille ou pas.
Voilà.
Merci à toi, Christian.
Ben, merci beaucoup et bon été à toi, Fulgence.
Merci, toi aussi. Et puis, on se retrouve à la prochaine saison, à partir du mois de septembre.
Ben, j'y serai avec plaisir.
Voilà.
Merci beaucoup.
Bon week-end.
Bon week-end à tous.
À bientôt. I roll up like the bottom of a toothpaste tube. Lose weight, shoes, one missing a shoelace to it. Two new chains, you can call me two chains. Rope chain like Hussein's noose. Yeah, they let the fruitcake loose and it goes. One for the trailer park, two for my baby mom. Three for the tater tots, four if you ate a lot. Five if you came to rock, straight up while I'm shitting on my comp. I'm about to use the John like Grey Poupon. Money like a scroll, bitch, my paper long. Longer than it takes a blonde to put a makeup on. Cause me and Elvis gel together like cellmates. Yeah, this the jailhouse, bitch, and I don't give a shit about a thing you say. I just wanna feel like a king again. And if you don't like it, you can send a spin. Middle fingers up, we about to do the shit again. Discovered peroxide, yeah, since I got signed. I went from Popeyes to Jack and the Bean. I'm watching my stock rise. These little attention seekers, I'm finna treat them like diabetics. Got them all on pins and needles, just like Ozempic meaning. Yeah, these little pricks to finger. And when I stick this thing up, it's higher than Wiz Khalifa. Soon as he lit the weed up, as I go peeking speed up, like I was finna re-up. Rap is my new Vicodin, so boxing is how I treat it. Still going toe-to-toe, I'm still boxing with all my demons. But a couple Xanny bars and I'm Danny Gar. See ya! Been stunting on you from the jump like Evo Knievel. Back in the cut and stacking chips up like a can of Pringles. Sometimes I feel like D-Rose. I got so many hit singles. Bitch, I barely have any wrinkles. You sleeping on me like I'm Zero. So I don't give a shit about a thing you say. I just wanna feel like a king again. And if you don't like it, you can send a spin. Middle fingers up, we about to do this shit again. There it goes. One for the trailer park, two for my baby ma. Three for the tater tots, four if you ate a lot. Five if you came to rock and you never gave a fuck. Middle fingers up, we about to do this shit again. I stole black music, yeah, true, perhaps used it as a tool to combat school kids. Came back on some bathroom shit. Now I call a hater up a day, cause they mad but they can't do shit. And I know I'm such a dick, huh? And it must be fucking with ya to know I up and quit the prescription drugs and liquor. And yet my buzz is bigger, still wrapping circles around you like a boa constrictor. Break it down. Now I'm about to explain to you all the parallels between Elvis and me, myself. That seem obvious. One is pale as me, second we both been held as king. He used to rock the jailhouse and I used to rock the shelter. We sell like Velveeta shells and cheese. But y'all misdemeanor me back when I had felonies. That went over your head because you just felonies. You just literally knelt to me. I used to have no self-esteem. I used to cry myself to sleep. Honestly, I need doubters because you motherfuckers motivate me to make you look stupid. Believers, a little faith is all I see from you. All I need to do is hear you say the same shit my father said to me when I was just a week or two. Marshall, I believe in you. Stupid. No more Guinness doubt, but my belief in myself is once again it's out. So many world records, I'm Guinness out. Shit you say goes in and out. My ear canal, so either my hearing's out. I don't give a shit about a thing. I just wanna feel like a king again. And if you don't like it, you can send a spin. Middle fingers up, we about to do this shit again. Oui, ça c'est tout nouveau, tout frais, c'est sorti hier. C'est Eminem avec la complicité de Cello Green, de King and I, de King c'est qui, c'est Elvis Presley. Et il veut dire par là que... Mais je sais pas pourquoi il dit ça, Eminem, il dit « j'ai volé la musique des Noirs ». Non, t'as pas volé, tu t'es inspiré de la musique des Noirs. Moi je dirais, je ne rappelle pas ça un vol. Voilà, on sait que tu collabores beaucoup avec les Noirs, tu t'es inspiré de ça, la musique noire, t'as... Tu les côtoies, ce sont tes amis. Bon, ben, c'est pas du vol, mais pourquoi tu... Ouais, bon, c'est ce qu'il dit dans la pièce. Hein. Et puis, je pense bien que c'est un documentaire, c'est un film qui sort bientôt même, d'ailleurs, qui est déjà aux États-Unis, mais chez nous, ici, c'est pas quand est-ce que ça va sortir. Alors, cette musique fait partie de ce film-là, de King and I. Il parle de quel King? Elvis Presley de King. Elvis Presley de King and I et moi. Voilà, il fallait que j'explique un peu. Alors, les gens, dans les commentaires, les gens se sont dit, non, Eminem, tu n'as pas volé, tu t'es inspiré de ça, c'est tout, et puis tu l'as toujours dit, tu l'as jamais caché. Voilà, faut pas s'auto-flageller là, tout le temps. Voilà, c'est là où je vais en venir. Voilà, là je vais parler tout de suite un peu de tennis. tennis en Allemagne d'ailleurs, il y a le tournoi de Halle, il y a Daniil Medvedev qui se qualifie sans souci pour les sans problème, sans souci, on peut le dire comme on veut, pour les demi-finales. Medvedev qui est d'ailleurs qui est depuis quelques semaines depuis le 13 ou bien je ne sais quoi là le numéro 1 mondial. Oh ouais, il y a Djoko est troisième maintenant parce que l'autre là, l'Allemand, le jeune Allemand, il est deuxième. Voilà, donc Djoko il n'est plus premier là pour l'instant. Voilà, donc c'est le jeune Daniil Medvedev qui est le premier. 5 jours après avoir atteint la finale à Den Bosch, le numéro 1 mondial, Daniil, c'est D-A-N-I-I-L, Daniil, c'est pas Daniel, Daniil Medvedev a finalement battu Roberto Bautista à Gouttes en quart, 6-2, 6-4 en demi-finale. Et puis là, il va affronter l'Allemand Oscar Haute. Voilà, ça c'est ça. Sur gazon davantage d'ailleurs que sur d'autres surfaces, il faut à tout prix savoir tenir son service. C'est lui qui l'a dit. Il a une nouvelle fois démontré lors de son quart de finale à Halle. Celle-ci, le numéro 1 mondial, l'a aisément emporté sur Roberto Bautista. À Goutte, 6-2, 6-4 en 1h27. Il le doit avant tout à sa capacité à encaisser les balles de break. Ça, oui, c'est une de ses spécialités. Il encaisse bien les balles de break, ce gars. Au total, il a dû en disputer 9, dont 7 dans le deuxième set. J'ai vu le résumé du match. Super. Non, il est bon. Il est bon. Il est bon. C'est un de mes tennismen, un de mes joueurs de tennis préférés avec, voilà, tous les autres, hein. Mais je le préfère beaucoup aussi. Même s'il est russe. Et puis, Alexander Zverev, le jeune allemand aussi. Il a toutes les écartées et confronté la même problématique. L'espagnol n'en a sauvé que 2 sur 5. Donc, là, je lui dis bravo, 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 Daniil Medvedev. Et puis, il y a la jeune Coco, 18 ans, la jeune américaine, afro-américaine, qui se qualifie pour les demi-finales à Berlin. Elle aussi, hein, elle était en finale là, à Roland-Garros. Un cas de victoire en demi-finale, Coco intégrera le top 10 pour la première fois de sa carrière. Si elle part en demi-finale, c'est ça, je lui souhaite. 18 ans, donc finaliste à Roland-Garros, Coco Gauff a rejoint la demi-finale 500 de Berlin après avoir dominé Karolina Pliskova en 2-7, 7-5, 6-4. Bref, très court. Voilà, pas 4 heures de match là, sur le court de tennis. On n'arrête plus Coco. Hein. Moins de 2 semaines après avoir atteint la finale, de comme je viens de le dire, des internationaux de France battus par Iga, la polonaise, la jeune américaine de 18 ans, s'est qualifiée aujourd'hui pour les demi-finales de Berlin. Sur gazon, hein. c'est pas terre battue. C'est 7-5, 6-4. Ça va vite. La Tchèque avait été finaliste aussi à Wimbledon l'an dernier. Et cette année, je pense bien qu'elles vont se retrouver là-bas encore parce qu'elle est déjà, je pense bien qu'elles vont se retrouver là-bas. Mais ce qui n'est pas bien, cette histoire de Wimbledon, tous les matchs qui vont se jouer, il n'y a pas de points, les points vont pas être comptés. C'est ce que Myriam nous racontait hier. On va jouer, c'est tout. Voilà. Parce que les gens ont failli boycotter, les Russes n'avaient pas droit. Maintenant, ils ont le droit de jouer. Donc, on dit, bah, s'ils ont le droit de jouer, si c'est comme ça, il n'y aura pas de points accordés aux joueurs, à tous ceux qui vont participer à ce tournoi de Wimbledon cette année. Ça va jouer, point, c'est tout. Mais j'espère qu'ils auront au moins des cachets. Sinon, il y a certains qui vont se dire, même s'ils sont déjà millionnaires, il y a certains qui vont se dire, je ne veux pas aller jouer comme ça. Et puis, en plus, j'ai pas de points, ça ne me donne pas des points, ça ne me change pas de position dans le classement mondial. Et puis, je n'ai pas de cachet, qu'est-ce que je vais aller faire à Londres? Chacun prendra ses décisions avant de prendre son avion. Voilà. Et il y a une qui a 28 ans maintenant qui prend sa retraite. C'est une Portoricaine, Monica Puig, toujours au tennis, championne olympique en 2016. Oui, arrête sa carrière à 28 ans. Ouais, ça suffit. Ces dernières années, j'ai essayé de retrouver mon meilleur niveau. J'ai fait tout ce qui était possible, mais je suis arrivé à un point où mon corps me dit stop. Oui, on en parle souvent ici. À escale 17-18, il dit c'est un sport individuel. C'est pas un sport de groupe comme le soccer, le football ou bien le basket et autres. C'est un sport individuel. Soit le corps fait avec, tu continues, mais quand le corps ne fait plus, il y a personne qui est là qui va te passer la petite balle là. Non, tu peux plus t'appuyer sur tes genoux, c'est fini. Les Nadal qui se font opérer, il y a Roger Federer qui ça fait plus de combien d'années maintenant qu'il a arrêté. On ne sait même pas s'il va revenir. Voilà, et puis bon, on lui dit bravo, merci d'avoir participé, d'avoir donné au tennis de belles années aussi. Je pense bien que c'est la seule portoricaine qui a eu une médaille d'or, hein, qui a eu un trophée comme ça. Allez, la suite des autres matchs la semaine prochaine, bien sûr, parce que le tournoi de Halle et puis de Berlin, ça continue. Donc,
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Ouais, on est toujours là. Je suis toujours là avec vous pour terminer cette première partie de l'émission en beauté avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il y a un été festif qui se prépare là-bas sur la venue du musée. Il y a une création éphémère de l'artiste d'Horace et une panoplie d'activités gratuites en plein air. Ah, il y a pas mal de gens, ceux qui n'ont pas encore découvert ces activités de plein air d'été du Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est le temps, c'est le moment. Profitez-en. Et je pense bien que vous n'allez pas déçu. Le déplacement vaut la peine. Je vais en parler rapidement. Quoi faire au musée cet été? Il y aura 8 différentes activités. Voilà, avenue du musée, bien sûr. C'est le mercredi 22 juin. Il y a le petit marché du musée en présentiel. C'est pas à travers, c'est pas par web ou bien virtuel, bien quelque chose comme ça. Et puis, il y a le petit marché, le 28 juin et le 26 juillet et le 30 août. Ça, c'est en collaboration avec le Festival international des Nuits d'Afrique, en présentiel. Et puis, il y a du conte là-bas aussi avec Amidou Savadogo, samedi 16 juillet à 13h. Voilà, il faut préciser. Et puis, il y a le MAC d'impro avec la Ligue nationale d'impro. En présentiel aussi, hein, ça dit, il faut se déplacer, c'est présence physique. Mac d'impro avec la LILNI, mercredi 20 juillet à 17h. Et puis il y a le Drag Brunch avec Barbada et Friend en présentiel aussi, samedi 30 juillet à 11h. Et puis il y a le laboratoire de création Festival Quartier Danse, le mercredi 3 août à 17h avec Ourani Jazz of the Machine, présentiel aussi. Et puis il y aura un concert avec Om Ourani, toujours la même personne, la même artiste, le mercredi 17 août à 17h. Si j'ai encore une minute, merci, restez à l'écoute. Après, il y a Taiko, spectacle de tambour japonais. Ça c'est le samedi 27 août à 11h, tambour japonais avec Arashi Daiko. Je vais revenir là-dessus de toutes les façons. Voilà, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir Marilyn Laroche qui vient nous parler de « J'ai souvenir encore », un spectacle bénéfice qui célèbre la vie à la maison Adhémar Dion. Voilà.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Alors, c'est Escale 17-18 qui continue comme ça, mon invité déjà au bout du soul, Marilyn Laroche.
Bonjour.
Directrice du développement des communications et du marketing. Voilà, c'est pour nous parler de ce spectacle bénéfice. J'ai souvenir encore qui célèbre la vie. Voilà.
Alors, exactement. Oui, un super beau spectacle qu'on vous a préparé.
Oh oui. Alors, je ne sais pas si c'est le premier. Est-ce que c'est le premier spectacle bénéfice ou bien ça va comment continuer ou bien comme ça s'est passé l'année passée? Comment est-ce que vous avez...
Plein de questions.
Oui, plein de questions en même temps. Comment est-ce que vous avez pu mettre la main sur toutes ces grosses têtes, c'est-à-dire ces grosses vedettes là qui vont prendre part à ça? Lise Dion, Guylaine Tanguay, Ludovic Bourgeois, Claudette Dion, Mario Pelcha et Yannick Fournier. Dites-moi.
Oui, c'est une brochette très impressionnante. Je vous dirais que oui, la Maison Adhémar Dion a déjà fait des spectacles bénéfices.
Oui.
Mais là, cette année, on est arrivé, dans le fond, moi, j'ai commencé en octobre et j'ai refait comme l'image de marque. Donc, pour vraiment mettre en valeur le côté humain.
Oui.
Quand je suis rentrée la première fois dans les lieux, j'ai vraiment vu, c'est autant au niveau des résidents, mais au niveau des bénévoles, des employés, c'est le côté humain qui est à ma foi très, très important en fin de vie, mais partout un peu, mais c'est qu'on le retrouve vraiment ici. Puis il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de, tu sais, de comme vous avez dit au début, de célébrer la vie.
Oui.
Fait que j'ai vraiment tenté de faire ça dans l'image. De célébrer la vie. Puis bon, ben pour finir ça en beauté, ben quoi de mieux que d'arriver avec un spectacle unique pour célébrer la vie, donc avec des artistes tellement talentueux qui ont dit oui avec grand plaisir. Je pense que la cause des soins palliatifs est très, très présente, très omniprésente, très touchante.
Mm-hmm.
Donc, j'ai une grande équipe aussi derrière moi. J'ai Maxime c'est ça, avec j'ai Maxime Charbonneau qui est animateur aussi. J'ai Chantal Lépine qui est productrice déléguée, qu'on a vraiment concocté vraiment un spectacle qui, j'espère, va vraiment combler toutes les personnes dans la salle.
Quand j'ai vu ça, j'ai vu la liste de la palette d'artistes, je me suis dit, mais ça, c'est la crème de la crème, ça. Voilà.
Oui. Oui.
Alors, dites-nous un peu la mission première de la maison à Desmardions.
La mission, vraiment, c'est d'offrir des soins de qualité, des services pour les personnes en fin de vie, donc 12 personnes adultes. C'est ça que toutes dans le fond, gratuitement. Fait que pour que ça soit gratuit, évidemment, il faut aller chercher des fonds. Donc, à chaque année, il faut aller chercher 1,2 million. Fait que c'est quand même quelque chose. Fait que les activités de financement sont vraiment très importantes, mais c'est même les dons, c'est les dons uniques, les dons in memoriam, tout ça dans l'année, là, c'est vraiment... on a besoin de la générosité des gens.
Oui, oui. Oui, oui. Est-ce que 1,2 million, quand même, c'est faisable?
Oui. Il faut travailler fort, mais je pense que la générosité de toutes les personnes qui viennent, je pense que c'est même les familles aussi qui traversent les murs, je pense qu'on est conscient aussi de toute la qualité du service qu'on offre gratuit, puis sont vraiment, vraiment généreux. Là.
Ouais. Et ceux qui ne seront pas au spectacle bénéfice, s'ils veulent faire un don comme ça dans le courant, tout au long de l'année, comment on peut faire un don à la maison?
Vraiment, on peut le faire en ligne, lamaisondesmardions.ca, /donner. Donc, vraiment, tout se fait en ligne, mais sinon, on peut appeler aussi, on peut débarquer chez nous, visiter la maison.
Oui.
J'ai d'autres activités aussi de financement cet été. J'ai un tournoi de golf, j'ai un encan virtuel, j'ai une envolée de papillons. Donc, c'est vraiment diverses façons là, que les gens peuvent donner s'ils ne peuvent pas venir au spectacle.
Oui. Et puis, je vous dis merci, Marlène, en passant pour le nouveau site, hein, c'est très beau.
Merci,
bravo.
Je sais
que vous êtes impliqué là-dedans aussi.
Oui, j'ai travaillé fort avec Mélissa Lavoie, qui est ma graphiste intégratrice web. Mais oui, on a travaillé fort pour vraiment offrir, en fait, dans le fond, un beau site qui révèle vraiment les valeurs de la maison.
Oh, oui. Dites-lui merci. Bravo aussi à Mélissa de ma part, graphiste et intégratrice web. Là. Ça, non, vraiment, quand je suis allé voir, j'ai dit, waouh, c'est vraiment, ça vaut la peine. Peau neuve,
oui.
Ça vaut le crédit. Ça mérite.
Non, c'est gentil. Puis, on a vraiment aussi une nouvelle directrice générale, Ariane Godbout. Fait que, on est vraiment dans une nouvelle ère, je vous dirais, pour la maison.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas fini. Là. On a plein de beaux projets. Là.
Oui. Et pourquoi ce titre-là de la pièce du spectacle, pardon, pas la pièce, mais du spectacle bénéfique? J'ai souvenir encore
de la chanson de Claude Dubois. Je vous dirais que pour cette première édition-là, on voulait vraiment aller toucher les gens au niveau de chansons, on va vous faire danser, c'est sûr, mais tu sais, de vraiment un hommage aux êtres chers.
Oui.
Puis un hommage, c'est vraiment aussi de penser à tout ce qu'ils ont laissé derrière, mais les beaux souvenirs aussi qui restent pour les personnes, pour les êtres chers.
Oui, oui. Nous voulions mettre en valeur le côté humain, chaleureux et rassemblé qui caractérise notre établissement. Pour nous, il est important de célébrer la vie avant tout. C'est vous, c'est de vous. Hein. C'est vous qui dites ça.
Oui, 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 vous êtes en train de me citer, oui.
Oui. C'est vous qui dites ça. Voilà, non,
oui.
Sincèrement, c'est comment on se sent à la tête d'une maison comme ça, qui est là pour accompagner des gens qui sont en fin de vie? Comment on se sent en tant que responsable du développement des communications, voilà, et du marketing? Comment on se sent? Est-ce que vous pensez à ces personnes quand vous quittez la maison tout le temps, ou bien vous dites, OK, ces personnes ont vécu leur vie, voilà, c'est les derniers moments, il faut les accompagner avec un côté positif, c'est tout.
Oui, puis je vous dirais que même, tu sais, je vous le cacherai pas, moi c'est ma première fois aussi avec, tu sais, dans des centres de soins palliatifs. J'ai une équipe formidable aussi, tu sais, d'infirmières qui m'ont vraiment aidée à cheminer là-dedans, parce qu'au départ, je suis une fille très très émotive. Fait que, tu sais, de voir des gens partir, ça m'a beaucoup affectée.
Oui.
Mais de rencontrer aussi des résidents qui ont une lueur d'espoir, puis un beau message de, tu sais, j'ai vécu ma vie pleinement. mais j'ai le goût de la finir aussi pleinement, tu sais, avec mes proches, avec mes amis, avec ma famille. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans que moi, ça m'a ouvert les yeux sur un message de un peu un, de l'espoir de OK, oui, il y a la fin de vie, mais à quelque part, on a toute une fin de vie. Ben pourquoi pas, tu sais, la célébrer dans la passion, dans le bonheur et dans le plaisir.
Oui. Oui, oui. Mais pourquoi vous avez choisi, pourquoi vous n'avez pas fait ça à Montréal? Pourquoi vous avez choisi Sainte-Thérèse?
Je vous dirais que c'est ça que nous,
le théâtre Lionel Gros, oui.
Elle est à Terrebonne, donc oui. Dans la région de la Naudière. Malheureusement, c'est pas possible. Et j'ai Audifine à Sainte-Thérèse qui a embarqué dans le projet. On l'a appelée. Elle était emballée par ce beau projet-là. Donc,
je comprends.
Que, moi, j'embarque. C'est sûr que quand on est arrivé avec les noms des artistes, c'est quand même tentant. Oui. Fait que je remercie vraiment Audifine d'avoir embarqué dans ce projet fou avec Maxime et Chantal et moi. Mais vraiment, là, on n'est pas déçus.
Ouais. Puisqu'il n'y a plus de, consignes sanitaires, ça dit que vous pouvez faire salle comble, quoi.
Exactement. Puis je vous dirais, là, je ne vous le cacherai pas, il reste quelques billets seulement. Ça arrive. Je pense que la demande, je pense que les gens avaient le goût aussi de retourner en salle de spectacle. La culture, c'est super important.
Oui.
Fait que je pense que c'est un beau moment en juillet de fêter ça aussi. Donc oui, salle comble, on a 811 billets. Je vous dirais qu'il en reste une centaine. Fait que c'est le temps là, d'acheter les billets.
Oui, oui. Et il faut le préciser, les gens qui nous écoutent, il faut se dire que c'est pas un organisme qui se fait de l'argent, cette maison, c'est un organisme sans but lucratif. Il faut être précis avec les gens, c'est ce qui fait que...
Oui,
allez-y, je vous laisse parler de ça.
Non, mais mais merci d'apporter le sujet, parce que c'est ça que nous, j'ai Desjardins qui est notre fier partenaire, puis c'est ça que l'objectif là-dedans, c'est que 100% des billets aillent à la maison, tu sais, puis... C'est ça qu'on se le cachera pas, produire un spectacle comme ça, ça coûte des sous. Fait que c'est ça que si j'ai pas de partenaire en arrière qui embarque aussi dans notre folie, Family Prix, Des Ruisseaux, le Odyssey, j'ai des députés, si je les ai pas, c'est ça que je peux pas remettre 100% des billets. Puis je pense qu'on va atteindre notre objectif. Fait que je veux vraiment remercier nos partenaires aussi. Mm-hmm. Là,
alors moi je vous souhaite plus que 1.2. Hein. Je vous souhaite plus. Non, parce que vous donnez la gratuité des services que vous offrez. Je me suis dit, mais comment ils font? Est-ce qu'ils vont vraiment, quand j'ai vu le communiqué, je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont arriver vraiment à récolter 1.2 million?
Alors, c'est ça que je vous dirais que pour, on a des subventions aussi gouvernementales, je pense, qui tournent autour de 800 ou 900 000.
Oui.
Là, j'ai pas les chiffres exacts, je veux pas mais c'est ça, mais vraiment, sinon, pour le quotidien, il faut vraiment 1,2 million par année pour l'été, pour tout ce qui est pour le quotidien de rouler une maison là, d'une telle envergure.
Oui, oui, oui. Et les résidents sont traités avec un profond respect et bénéficient des soins palliatifs de qualité.
Oui, je pense qu'on réussit bien. Là. C'est en l'aide aussi de nos bénévoles. On a une équipe. C'est les bénévoles, les employés. C'est ça qu'on a besoin vraiment de personnes très humaines qui donnent beaucoup de leur temps. Mm-hmm. Je pense que c'est pour ça aussi que les résidents se sentent bien, se sentent comme à la maison. Puis c'est ça notre message, c'est d'avoir vraiment une maison chaleureuse pour finir ces jours... Ben, comme si on était chez soi.
Oui, comment je peux devenir bénévole là-bas? Je parle au nom de tout le monde, de monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute. Comment je peux devenir bénévole? Comment on peut devenir bénévole à la maison?
C'est très simple. Ça se fait soit en ligne, on est vraiment... tout se fait en ligne, un petit formulaire à remplir selon vos intérêts. C'est ça que nous, on veut vraiment bien vous placer parce qu'il y a beaucoup de secteurs. J'ai la philanthropie, j'ai les soins, j'ai l'administration, j'ai la réception. J'ai aussi notre friperie, le papillon. Donc, j'ai vraiment beaucoup de sphères à combler au niveau du bénévolat. Fait que selon la disponibilité des gens, selon l'intérêt des gens...
Oui.
Sur ça que je peux les placer à quelque part.
Okay. Mais est-ce qu'il y a deux sortes de bénévolat, des bénévolats ponctuels ou bien réguliers, permanents, ou bien réguliers ou bien bénévolat. De temps en temps, vous avez bien des bénévoles quand il y a des gens, des événements comme ça, comme le spectacle bénéfice.
Oui, exactement. C'est ça que pour les soins, il y a beaucoup de secteurs que c'est vraiment du bénévolat régulier. Donc, on va avoir un horaire et tout ça. Puis, il y a des gens aussi qui ont beaucoup de temps à donner. Fait que c'est ça que ça, on est bien, bien, bien heureux.
Oui.
Mais sinon, tout dépendant de la période de l'année, c'est ça que là, je peux avoir comme c'est ça, comme bon, des événements comme ça. Le tournoi de golf, je vais avoir besoin de bénévoles. Le spectacle aussi, je vais avoir besoin de bénévoles. Fait que tout dépendant, je vous dirais, des projets qu'on a dans l'année, ça va... ça va varier.
Ça se passe quand le tournoi de golf, on peut faire d'une pierre deux coups. Hein?
Oui, merci, j'apprécie. Le tournoi de golf, c'est le 16 août, ça se passe au club de golf, le Joliette.
Oui.
Donc là aussi, si vous voulez vraiment participer, vous êtes un bon joueur, ou même pas juste pour le plaisir avec des collègues, c'est sûr qu'on va vous accueillir, c'est une super belle soirée.
Ah ouais, à Joliette.
Oui, exactement.
Oui. Envoyez-moi le communiqué, je vais parler de ça dans les prochaines émissions.
Oh, c'est gentil. Oui. Merci.
Pour que je puisse en parler dans les prochaines émissions. Voilà, c'est voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? De toute façon, avant de partir, avant de vous laisser partir, je me suis dit, est-ce que ces artistes-là, quand vous les avez approchés, ça a été de ouais, on y va avec. Ouais. Qui les a approchés? C'est vous ou bien c'est la porte-parole qui les a approchés?
Je vous dirais, faut pas la cacher. Claudette Dion connaît vraiment le grappin de tous les artistes.
C'est la porte-parole. Oui, oui.
On s'est divisé quand même. Maxime Charbonneau est dans le milieu aussi beaucoup.
Oui.
Chantal aussi. Moi aussi, je suis dans le milieu. Fait que, tu sais, on s'est comme dit, OK, ben là, moi j'appelle lui. Mm. Puis je pense qu'on a, eu peu de, tu sais, je veux dire, on a eu quelques réponses négatives, mais c'est parce qu'il était pas disponible. Mm. Donc, j'ai des artistes qui étaient bien tristes de pas être sur le show cette année, là.
Oui. Combien de personnes la maison peut accueillir, au fait?
On peut accueillir 12 personnes.
Max.
On a 12 chambres. Oui, oui. Exactement.
Oui. Les inscriptions se font sur le site aussi?
En fait, les inscriptions, c'est vraiment avec le CI 3S de la Naudière. Donc, c'est vraiment avec eux direct. Nous, on ne fait pas la sélection là, des personnes. Il faut vraiment passer par un processus. Là.
Ah, il y a un processus avant d'arriver.
Oui,
avant. C'est pas vous, exactement. Ça dit que la sélection se fait pas directement à partir
non,
de la maison.
Non, elle se fait pas ici à l'interne, à la maison des morts. Mmh. On devrait prendre tout le monde, par exemple, je vous le dis. Là.
Oui. Mais non, bon, pour 12, et puis gratuitement, tous les soins sont, tous les services sont gratuits, là. Moi, je connais pas d'autres maisons qui en font ici, comme ça, sincèrement, il faut le dire. Alors, pour la dernière minute qui nous reste, quel est le message que vous avez à lancer à des personnes qui côtoient ou bien qui ont des gens dans leur famille qui souffrent, qui cherchent, qui sont à la recherche de maisons comme ça qui pourraient assister, les prendre en charge avec de la gratuité des services d'ailleurs, et puis de très bons services, ouais, quel est le message que vous avez à leur lancer avant de vous laisser partir?
C'est sûr que j'ai un message d'espoir de leur dire de ne pas lâcher prise et de faire les demandes auprès de leur région. C'est vraiment chaque personne au niveau des régions. Puis de parler à son médecin de famille. Ça aussi, c'est super important de nommer les choses. Je pense que de ne pas rester tout seul là-dedans.
Oui.
Il y a des proches aidants aussi, mais c'est de s'informer. Mm-hmm. Je pense que c'est sur le web et tout ça, mais n'hésitez pas à appeler les maisons proches de chez vous pour demander conseil, pour demander de l'appui.
Oui.
Je pense que vous allez être bien réorienté là.
Merci beaucoup, Marilyn Laroche, directrice du développement des communications et du marketing de la maison. Adémar Dion, ça se passe le 11 juillet au théâtre Lionel Gros à Sainte-Thérèse. L'adresse, elle est 11 rue. Allez-y.
Oh mon Dieu, l'adresse, je peux vous dire l'adresse de la maison, mais là, l'adresse du théâtre, je l'ai pas.
Oui, c'est 11 rue Duquette, à Sainte-Thérèse. Mais... Voilà, ça c'est l'adresse de la maison, on la trouve sur le site de toutes les façons de la maison.
Oui, venez voir le site, puis je venez profiter de la vie aussi.
Oui, merci beaucoup à vous.
Merci
bon spectacle, bénéfice, et à bientôt. N'oubliez pas d'envoyer... le document
oui, c'est
pour
ça
le.
Que je vous envoie ça. Je vous envoie l'info. Là, je vous remercie infiniment.
Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Au revoir.
Tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. instant.
Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant.
Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Fais comme si j'avais pris la mer.
J'ai glissé sous le
vent. Mais quand si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Mais comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent.
Vous avez reconnu les deux voix, c'est la voix de Garou et celle de Céline Dion, Sous le vent. Voilà, on est presque à la fin de l'émission comme ça. Je vais rester au Musée des Beaux-Arts parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent là-bas quand même. Hein. Voilà, il faut le dire, c'est vraiment intéressant ce que ce musée-là nous propose, nous donne. La venue du musée qui rêve sa parure d'été, hein, qui revêt d'ailleurs sa parure d'été. Venez découvrir Niam, qui a une œuvre éphémère produite par le muet et réalisée par l'artiste Doraz, qui puise son inspiration dans l'exposition de Nicolas Parti, le jeune Suisse, le jeune peintre suisse, l'heure mauve, et dans la légende irlandaise de Niam, Wesan et Tirna, Nocte pour offrir au public une réflexion sur la nature et le temps qui passe. Donc, depuis 2013 d'ailleurs, l'avenue du musée se transforme chaque année en aire piétonne durant la saison estivale et invite des créateurs à y réaliser une installation. Cette année, c'est une œuvre de l'artiste Dora, voilà, qui vous attend. Une légende irlandaise revisitée. Donc, l'installation artistique de Niam Kaye qui s'inspire des thèmes de la nature, du temps présent dans l'exposition, l'heure mauve de Nicolas Parti. Et elle revisite aussi la légende irlandaise. Et puis bon, une île paradisiaque presque à l'abri du temps où 3 ans valent 300 ans sur Terre. 3 ans valent 300 ans sur Terre. Donc c'est un portrait gigantesque. J'ai vu une photo là où il dit « Ouh, c'est beau à voir !» qui recouvre l'avenue du musée. Et celui de Niam Kaye qui, c'est immortel, qui depuis son lieu d'éternité, regarde son mari mortel voisine quitter l'île pour regarder une terre qu'il ne reconnaît plus. Et Niam nous amène à réfléchir à la façon dont nous abordons le temps qui passe. L'installation vise également à rapprocher le public du monde naturel et l'invite à découvrir, en remontant l'avenue, les symboles d'un royaume verdoyant où règne beauté et jeunesse éternelle. Ok, c'est beau tout ça. Allez-y, ne ratez pas, parce que là, vraiment, quand il fera plus beau, quand l'été ne sera plus là, ce serait plus là. Ce chef-d'œuvre artistique. Voilà. Et puis, il y a quoi encore? Il y a l'autre là qui est toujours présent là-bas, musée d'actuel département des invisibles. J'en avais parlé ici en début de semaine, cette semaine. Depuis quelques années, il y a l'artiste Stanley Février qui acquiert des œuvres d'art créées par des artistes et divers horizons culturels et réalise une série d'actions performatives infiltrantes dans des musées. Et en tant que vivante, le MAADI, c'est le musée d'art actuel département des invisibles, le MAADI. Voilà, j'en avais parlé ici en semaine passée, qui a évolué depuis sa création pour inclure une pluralité de voix marginalisées. Stanley Février est né en Haïti, il est originaire d'Haïti. Alors donc, selon lui, ce musée nomade a pour objectif de contribuer au partage du pouvoir dans les institutions artistiques afin de démocratiser leur gouvernance et de décoloniser les récits historiques de l'art. Voilà, il est là jusqu'au 28 août 2022, cette année, oui, jusqu'au 28 août. Stanley Février, musée d'art actuel département des invisibles, MAADI. D'ailleurs, la dernière fois, il y avait un mot qu'il avait invisibilisé. Voilà, ça dit, ce musée d'art actuel, à l'intérieur du musée des Beaux-Arts, le département des invisibles, parle beaucoup plus, ou bien il va essayer d'exposer beaucoup plus les invisibilisés. Papa, je n'ai pas dit les invisibles, les invisibilités. Tu vois, je suis encore sur le mot. Voilà, département des invisibles, le MAADI, musée d'art actuel. Donc les jeudis et les dimanches, c'est de 14h à 16h. Il y a des guides de ressources du musée qui seront prévus au cœur de l'installation. Et puis, participe aussi à l'aspect permanent de l'œuvre qui interagit avec les visiteurs de façon surprenante et ludique. Bon, voilà, c'est ça. Et puis, il y a qui encore qui sera de la partie? Il y a pas mal de choses qui se passent là-bas quand même au musée des Beaux-Arts. J'ai déjà parlé des visites guidées en extérieur, du petit marché, j'en ai déjà parlé. Et pour ceux qui ne le savent pas, le musée des Beaux-Arts de Montréal a été fondé en 1860. C'est le musée des Beaux-Arts qui figure parmi les grands musées d'Amérique du Nord. Et sa collection donne aussi à découvrir le patrimoine québécois et canadien et l'art international dans une perspective critique et interculturelle. Elle rassemble près de 45 000 peintures, je dis bien. Je n'ai pas dit 45, combien 450. Il y a 3-0 après 45. Ok.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà. Alors, je vais parler de quelque chose encore. Toujours du musée des Beaux-Arts. Il y a Sabrina Raté qui est là-bas aussi. Elle a tombé de la nuit. Il y a une œuvre qui prend vie sur la façade du musée. C'est beau aussi. Hein. Moi, j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, moi, la beauté, tout m'éblouit dans la beauté. Il faut le dire. Une toile numérique. Découvrir la toile numérique. Le nouveau canevas de projection architectural du musée qui accueille des créations originales d'artistes d'ici et d'ailleurs. L'artiste montréalaise Sabrina Raté, reconnue pour ses installations et œuvres vidéo qui explorent les frontières entre le réel et le virtuel, signe la première œuvre à y être présentée. Contre-espace est projeté tous les soirs sur la façade du pavillon Michel et Renata Ornstein au nord de la rue Sherbrooke-Ouest de la tombée du jour jusqu'à 23h. Voilà. Alors, si vous êtes dans les environs là-bas de la tombée du jour, à fin de journée jusqu'à 23h, n'hésitez pas, allez-y voir cette belle œuvre de l'artiste Sabrina Raté. Le musée des Beaux-Arts met l'art numérique à l'honneur avec la toile numérique qui ouvre la voie à la projection d'œuvres sur la façade du pavillon au nord de la rue Sherbrooke-Ouest. Ça a commencé le 10 juin, ça va jusqu'au 27 novembre 2022. Il y a du temps, hein, parce qu'il y a du soleil encore là. On peut pas rater. Donc c'est l'œuvre Contre-espace. C'est une artiste multidisciplinaire qui, ouais, une rencontre entre architecte et paysage par l'utilisation de synthétiseurs vidéo et d'animation 3D. Contre-espace propose une rencontre entre architecture et paysage ainsi qu'une réflexion sur la manière dont le bâti façonne l'espace, que ce soit par le biais d'une fenêtre qui limite le regard ou par les colonnes et les reflets des vitres qui le fragmente, la compréhension d'un espace est inévitablement influencée par les structures qui l'entourent. Un espace est défini par ses limites. Voilà. Ça, c'est les Montréalaises qui, dans sa pratique, explorent les multiples manifestations de l'image numérique, de la vidéo analogique à l'animation 3D, en passant par la photographie, l'impression, la sculpture, la réalité virtuelle et l'installation. Voilà. Je pense bien qu'on est presque à la fin comme ça de... J'ai bien envie de découvrir plus cette œuvre gigantesque là-bas, chez Book West, à la tombée du jour jusqu'à 23h, pour le plaisir des yeux, tout simplement. Ça fait du bien. Ça, pour l'âme, pour l'esprit aussi, pourquoi pas. Alors, je dis merci à Christian Lacasse qui est venu nous parler de Comic Book, la bande dessinée américaine, de l'histoire encore, cette histoire, cette période de clandestinité du 1920 jusqu'à 1960. Et ouais, les bibles de Tijuana, hein, cette ville qui se situe au Mexique, pas aux États-Unis. Il fallait se cacher pour les vendre ou bien pour les lire. Voilà. Et je dis merci à notre invité qui est venu nous parler de ce spectacle bénéfice qui célèbre la vie. J'ai souvenir encore, Marilyn Laroche, directrice du département des communautés, des communications et du marketing à la maison à Desmardion. Maurice, merci à toi. On se retrouve lundi. Bonne fin de semaine. Et bonne fin de semaine aussi. Merci aussi à Catherine Bourderon, la recherche de l'émission. Et je vous dis, prenez soin de vos minutes. Et sur ce, je vous dis ciao. Profitez bien de la belle fin de semaine.